pense que de part et d'autre, chaque groupe sait aujourd'hui qu'il n'a aucun intérêt à recommencer les combats ou qu'il ne peut pas gagner sur la durée. Ce qui se commence, en fait, ma lecture, c'est que nous assistons à une lutte de positionnement par rapport au cantonnement qui s'annonce. C'est-à-dire que les troupes vont se cantonner sur les positions qu'elles occupent actuellement. Et ce qui se passe, et c'est là le côté tribal du conflit du nord du Mali, c'est que vous avez des groupes armés qui se rendent compte qu'ils n'occupent pas leur terre, entre guillemets, leur terre d'origine. Et ça, c'est le véritable problème. Donc, c'est cette lutte de positionnement que je vois, parce que le principe de démobilisation, désarmement, réinsertion devrait commencer, et il faut cantonner les troupes là où elles sont. Ce qu'on assiste aujourd'hui à, dans le nord du Mali, à une volonté de chaque groupe d'étendre un peu ses tentacules, si vous permettez l'expression, avant que ne commence le processus de DDR. Chacun veut grignoter le terrain, chacun veut s'approcher de ses bases, de sa région d'origine, de sa région natale avant le début du désarmement.
Donc il n'y a pas de risque d'affrontement.
Il peut y avoir des affrontements. Mais j'explique que la volonté de chaque groupe aujourd'hui n'est pas de se battre, mais d'occuper l'espace pour pouvoir compter lors du processus de DDR. Évidemment, si l'un des groupes n'est pas d'accord, il va avoir affrontement, mais encore une fois, je vous le dis, je ne vois pas de manière durable aujourd'hui des affrontements dans le nord du Mali. En tout cas, vous n'avez aucun groupe qui puisse supporter le poids d'affrontements durables aujourd'hui dans le nord du Mali pour deux raisons essentielles. C'est la question logistique, les combattants sont fatigués, certains sont partis, d'autres aspirent à la paix. Et puis ensuite, il faut te le dire, en termes de durée, vous risquez de ne pas avoir de combat entre les groupes rivaux parce que vous avez les sanctions qui, désormais, planent comme une épée de Damoclès sur tous les groupes sans exception.
Alors que peut-on voir comme suite de cette situation, du moment où la CMA refuse de négocier tant que, dit-elle, la plateforme ne respecte pas ses engagements?
Je pense qu'elle va finir par négocier. Et je pense qu'elle va finir par négocier. Si vous voyez au sein de la CMA aujourd'hui, les responsables ont changé, c'est-à-dire les interlocuteurs. Vous avez des porte-paroles plus articulées. Depuis que le MNLA n'a plus la mainmise médiatique sur la CMA, vous avez désormais une volonté, et je le sens quand vous discutez avec ces responsables, une volonté d'aller vers la paix.
En plus de se communiquer donc, quel doit être le rôle de la médiation?
Je crois que la médiation ne dit pas tout ce qu'elle fait. Vous avez la médiation internationale, vous avez la mission de l'ONU. Il y a, d'après ce que je sais, des discussions, des pourparlers avec les différents groupes de manière informelle. Il y a des coups de téléphone, des rencontres. Je sais par exemple que ce mercredi à Gao, la mission de l'ONU, enfin des émissaires discrets, devraient rencontrer les combattants des deux groupes et que la médiation est en train de tout faire pour que ça ne s'embrase pas à nouveau.